Ésaïe, chapitre 28, versets 16 et 17. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai posé en Sion une pierre, pierre angulaire, éprouvée et précieuse, solidement posée, celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. Je prendrai le droit pour règle et la justice pour niveau et la grêle emportera le refuge de tromperie, et les eaux inonderont l'asile de mensonge. Puisse le Seigneur nous accorder la bénédiction qui est attachée à ce passage, c'est ma prière. Dans l'univers, ton empire subjugue tes ennemis, la création soupire, car tout doit être soumis. Tout doit lui être soumis. Frères et sœurs, aujourd'hui, on veut contempler sur la suite de notre méditation que nous avions eue sur le sujet de fonder notre vie sur le roc. Nous avons un besoin sérieux de déterminer avec certitude si nous bâtissons bien la maison de notre caractère sur le roc qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire, comme nous l'avons lu dans notre lecture biblique. Cette pierre angulaire éprouvée et précieuse, solidement posée. Et si vous vous rappelez, nous avons vu dans notre étude précédente que bâtir sur le roc, conformément aux paroles mêmes de Jésus, c'est entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est entendre et faire la volonté du Père. Nous avons vu que nous ne devrions pas simplement nous borner à l'écouter étant des auditeurs oublieux, mais que nous devrions plonger nos regards dans la loi parfaite de la liberté, comme c'était écrit dans Jacques chapitre 1, si vous vous rappelez, que nous devons plonger nos regards dans cette loi parfaite, la loi de la liberté. Pourquoi ? Nous avons vu que nous devons y plonger nos regards afin que sa condamnation, la condamnation de la loi du conducteur, nous conduise à Jésus qui a pris sur lui mes péchés et le péché du monde entier afin que nous soyons justifiés en lui par la foi de Jésus-Christ et que nous soyons délivrés en lui de notre fosse de désespoir dans laquelle nous sombrons à cause de cette condamnation dans laquelle la loi nous plonge lorsque nous plongeons nos regards dans la loi. Et si vous vous rappellerez, dans le psaume 40, nous avons vu que ces paroles s'appliquaient directement à Jésus et qu'il a souffert l'iniquité de nous tous et que dans ce sentiment total, complet, irréversible de condamnation, il a exercé la foi dont il est l'auteur, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 12, et il nous a montré le chemin par lequel nous pouvons sortir de cette fosse de désespoir et de condamnation par la foi qu'il a lui-même exercée. Et vous vous rappellerez que nous avions lu dans le passage du livre Jésus-Christ, à la fin, il disait, pour tout résumer notre méditation précédente, il disait, recevez-moi, bâtissez sur mes paroles. Et donc c'est ce que nous avions étudié en long et en large, et pour voir quel était le sens que Dieu nous appelle bien véritablement à être délivrés de cette stupeur, de cette léthargie spirituelle qui ne pratique pas la parole, mais à nous plonger dans cette expérience où la loi nous révèle qui nous sommes réellement pour nous conduire vers la réelle délivrance. Pas celle qui vient de la chair, qui est illusoire et artificielle, mais celle qui se trouve en Jésus-Christ par la foi de Jésus. Comme nous sommes appelés à l'avoir, tel que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. Et donc, la dernière fois, j'avais voulu conclure notre méditation par un passage que je n'ai pas vraiment utilisé et j'aimerais maintenant l'employer pour introduire cette méditation présente. Ça se trouve dans le livre « Lift Him Up » à la page 237 au paragraphe 2. 3 et 4. Et c'est une déclaration de l'esprit de prophétie qui englobe tout ce que nous avions vu et plus encore et nous montre notre appel face à cette parabole de Jésus que nous avions lue de celui, la personne qui fonde sa maison sur le roc et la personne qui fonde sa maison sur le sable. Je lis. Ceux qui se fient à leur propre justice, au lieu de compter sur la justice de Christ, ne remporteront pas le prix. Donc si je ne plonge pas mes regards dans la loi de Dieu, la loi parfaite de la liberté, je vais me fier à ma propre justice parce que je n'ai pas vraiment réalisé la sainteté de la loi parfaite de Dieu qui représente son caractère et je n'ai pas vraiment réalisé ma condition, donc je n'ai pas vraiment trouvé de délivrance et donc je me fie à ma propre justice et je ne remporterai pas le prix de la vie éternelle. Elle continue, ils seront pesés dans les balances du sanctuaire et seront trouvés légers. Que tous ceux qui courent en vue d'obtenir l'avantage précieux de la vie éternelle se méfient de leur propre force et, par de nombreuses prières, jettent leurs âmes impuissantes sur Christ. C'est ce que Jésus il a fait quand il était dans cette expérience de condamnation. Il a jeté son âme impuissante sur l'amour du Père et le Père lui a donné la victoire qu'il a lui-même acquise par la foi. On sonde trop peu la parole de Dieu afin d'en recevoir des instructions précises sur le chemin de la vie. La grande majorité de ceux qui prétendent croire en Christ n'ont que des idées superficielles de ce qui constitue un caractère chrétien. Ne vous trompez pas vous-même par l'idée que votre propre justice naturelle vous réconciliera avec Dieu. N'oubliez jamais de vous considérer comme un pécheur aux yeux de Dieu. N'oubliez jamais de regarder Jésus élevé sur la croix. Et tandis que vous le regardez ainsi, croyez et vivez, car c'est par la foi au sacrifice expiatoire que vous pourrez être justifié par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Croyez que vous êtes pardonné, que vous êtes justifié. Non pas quoi ? Que dit-elle ? Ce n'est pas un pardon, une justification dans l'indolence et l'inactivité. Elle dit, croyez que vous êtes pardonné, que vous êtes justifié, non pas dans le péché et la désobéissance, mais dans votre soumission à la volonté de Dieu. Et si, par la foi, vous vous saisissez de la justice de Christ, alors ne soyez pas insouciant de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Étudiez souvent et priez que, de la même manière que Christ vous a montré le chemin, il puisse aussi, par sa grâce, vous garder sur le chemin. Comment ? Par ma soumission et mon obéissance, ma soumission à la volonté de Dieu. Car nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Et la foi même ne vient pas de nous, c'est aussi le don de Dieu. C'est la foi de Jésus, comme nous le lisons dans cette fameuse déclaration de Apocalypse 14-12. Afin de croître dans la grâce et la connaissance de Christ, il est indispensable que vous méditiez souvent sur les grands thèmes de la rédemption. Vous devriez vous demander pourquoi Christ a assumé l'humanité. Pourquoi il a souffert sur la croix? Pourquoi il a porté les péchés des hommes? Pourquoi il a été fait péché et justice pour nous? Vous devriez étudier afin de savoir pourquoi il est monté au ciel avec la nature de l'homme et quelle est l'œuvre dans laquelle il est aujourd'hui engagé pour nous. Et je termine cette citation par ce paragraphe. Si vous nourrissez des pensées de Christ, de son œuvre et de son caractère, qu'est-ce qui m'arrivera quand je ferai cela, quand je plongerai mes regards dans cela, quand, dans cette expérience de la loi condamnatrice et de Jésus qui a obtenu la délivrance par sa foi dont je me saisis maintenant? Qu'est-ce que cela fera quand je nourrirai des pensées de lui, de son œuvre et de son caractère, comme je suis appelé à le faire? Elle dit, vous serez amené à creuser profondément dans la mine de la vérité et vous pourrez ainsi mettre la main sur de précieux joyaux de vérité. À mesure que vous appréciez de plus en plus le caractère de Christ et que vous communiez avec Dieu, le péché vous deviendra odieux. En méditant sur les choses célestes et en marchant avec Dieu comme Enoch, vous rejetterez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Et vous courrez avec constance dans l'arène qui vous est ouverte. Notre édifice doit être fondé sur le rocher Jésus-Christ, ou alors il ne résistera pas à l'épreuve de la tempête. Donc vous voyez, l'activité de bâtir sur les paroles de Christ, sur ce rocher qui est Jésus-Christ, elle est très large. Et elle a à voir avec notre activité de formation de notre caractère en coopération et en soumission avec les déclarations de la parole de Dieu. C'est comme cela que cette activité, elle se déroule dans notre propre expérience, comme nous venons de lire dans cette citation. Mais il y a un élément qui est tout particulièrement important et qui attire maintenant notre attention et sur lequel nous voulons nous pencher. C'est, comme on l'a lu, lorsque nous faisons cela, on sera amené à, lorsque nous nourrissons des pensées de Jésus, de son œuvre et de son caractère, comme nous avons voulu le faire en nous concentrant sur ce sujet, nous serons amenés à creuser profondément dans la mine de la vérité et à mettre ainsi la main sur de précieux joyaux de vérité. Et lorsque nous mettons la main sur ces précieux joyaux de la vérité, à mesure que nous nous conformons aux attentes et aux exigences de la parole de Dieu, il y a une réalisation qui vient à nous aujourd'hui dans l'expérience que nous faisons, l'expérience ecclésiale que nous faisons, et ça nous est suggéré, et ce raisonnement vers lequel j'ai envie de attirer votre attention, et cette expérience, cette réalité vers laquelle je veux attirer votre attention, elle nous est introduite dans le passage de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 11. Ici, l'apôtre Paul dit quelque chose de très significatif. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Et pour élargir tout de suite cette citation de l'apôtre Paul qui est en train de nous dire que il a posé un fondement comme un sage architecte, et qu'il nous demande, à, sous l'inspiration de Dieu, à prendre garde comment nous bâtissons dessus. J'aimerais maintenant lire la citation de Conquérant Pacifique à la page 528, paragraphe 4, où il y a cette courte phrase qui définit et élargit ce que nous venons de lire. Il est écrit « Sur les fondements que Christ avait lui-même posés, les apôtres édifièrent l'Église. » Donc sur ce fondement que Christ avait posé, l'apôtre Paul, il dit, il a posé le fondement. Donc là, c'est clair. Jésus avait lui-même posé les fondements et les apôtres ont édifié l'Église sur ce fondement, avec notamment Paul, Pierre, Jacques, etc. Et ensuite, il est écrit, à la page 529, paragraphe 2, « Les apôtres travaillèrent dans la carrière des Juifs et des gentils pour en extraire les pierres qu'ils placèrent sur les fondements. » Donc, vous voyez, ils édifièrent l'Église sur les fondements que Jésus-Christ avait lui-même posés et que l'apôtre Paul aussi, il dit qu'il a posé par les enseignements qu'il a donnés sous l'inspiration de l'Esprit. Et ensuite, je continue. À la page 530, paragraphe 1. Les apôtres bâtirent sur de solides fondements, sur le rocher des siècles lui-même. Ils employèrent à cet effet les pierres qu'ils avaient arrachées au monde. Est-ce que vous voyez la suite, la ligne qui lie chacune de ces étapes dans l'édification de l'Église sur le fondement et les fondements que Jésus avait lui-même posés? Je relis. Les apôtres bâtirent sur de solides fondements, lesquels? Sur le rocher des siècles lui-même. Et ensuite, ils ont ramené les pierres des gentils et des juifs et les ont posées, les ont édifiées sur ce fondement qui est Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Et donc les apôtres ont bâti sur ce fondement qu'avait posé Jésus-Christ par ses paroles, ses enseignements. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20, quelque chose de très intéressant. Éphésiens 2, 19 à 20. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous voyez comme tout cela est ici, de manière très concise et spirituelle, relié et significativement expliqué. Jésus-Christ est le fondement et il n'y a pas d'autre fondement. Et ici, nous disons que comme c'est écrit au verset 16, lorsque en Jésus-Christ, nous qui étions autrefois éloignés avons été rapprochés par le sang de Christ, par la foi, par ce baptême de la foi, cette mort avec lui, lorsque nous sommes passés par cette expérience, nous sommes plus des étrangers, mais concitoyens des saints, et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et donc ceux qui ont part à l'activité de la réconciliation ils sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire de ce fondement. C'est-à-dire la pierre sans laquelle rien ne tient. Il est le fondement du fondement. Ensuite, ayant vu cela, ayant vu que les apôtres ont bâti sur le rocher des siècles qui est Jésus-Christ, nous savons à travers l'histoire de l'Église que certaines personnes n'ont pas fait, n'ont pas tenu garde des avertissements de l'apôtre Paul et ont donc continué, mais en construisant sur un autre fondement et en mettant sur ce fondement de la paille et du bois. Et cette réalité, elle est très bien exprimée dans le passage d'Ésaïe chapitre 58, Ésaïe 58, versets 12 et 13. Et donc, les apôtres, ils avaient bâti comme cela, et ce que les apôtres ont placé sur ce fondement, qu'ils ont édifié sur ce fondement les pierres spirituelles qu'ils y ont placées, ils les y ont mises sur le rocher qui est Jésus-Christ. Mais, comme l'apôtre Paul le disait dans, je crois que c'est 2 Thessaloniciens, il y aurait des loups qui viendraient ravager l'Église après sa mort. Et nous savons que c'est ce qui s'est passé à travers toutes les différentes sectes par lesquelles Satan a essayé de détruire et de miner la foi de l'Église, et puis par la naissance, le développement et la naissance de l'Église catholique romaine. Et donc dans Ésaïe 58, versets 12 à 13, le prophète est ici en train de prédire sous l'inspiration que après qu'il y ait cette apostasie de la foi, il y aurait des gens qui viendraient rétablir ce qui avait été démoli à travers les siècles du Moyen Âge. Nous lisons, les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat. Et donc, en tant qu'adventiste du septième jour, nous connaissons ce passage, nous l'avons lu et entendu et parcouru à de nombreuses reprises, mais je me permets tout de même de poser la question, quand s'applique ce passage? Quand est-ce que ce passage trouve son application dans l'histoire? Et pour avoir une réponse claire et précise de l'inspiration, j'aimerais lire dans Message choisi à la page 122 au paragraphe 1 et 2. Et ici, directement en lien avec ce passage que nous venons de lire, elle écrit « L'œuvre de ceux qui adorent le Dieu qui a fait les cieux et la terre est clairement décrite dans le chapitre 58 d'Ésaïe. » Deux points, et elle cite ici Ésaïe 58:12. Les tiens rebâtiront les antiques ruines, tu relèveras les fondations des anciens âges. Elle continue, le mémorial de Dieu, son sabbat du septième jour sera exalté. Vous voyez, c'est exactement, elle est ici en train de décrire l'activité spirituelle des adventistes du septième jour, de ceux qui croient au message du troisième ange, pour être précis. C'est à cela ici qu'elle fait référence. Parce que dans le paragraphe suivant, elle dit, après avoir cité Ésaïe 58, versets 12 à 14, où l'observation du sabbat est définie, au verset 13 à 14, elle dit, ici est retracé clairement l'histoire de l'Église et du monde, des sujets loyaux et des déloyaux. Les loyaux à l'ouïe du message du troisième ange ont dirigé leurs pas dans la voie des commandements de Dieu pour respecter, honorer et glorifier le Créateur des cieux et de la terre. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici? Elle est en train de revenir sur le début de l'expérience des adventistes lorsque, entre 1846 jusqu'à 1848 et suivant, ils en sont progressivement arrivés à la réalisation que, ayant traversé les expériences du message du premier ange et du message du second ange, ils en étaient maintenant au message du troisième ange dans lequel Dieu nous parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et donc elle dit, les loyaux qui ont entendu le message du troisième ange, en entendant tout cela, jusqu'au verset 12 de Apocalypse chapitre 14, ils ont dirigé leurs pas dans la voie des commandements de Dieu, et leur activité est retracée dans ces versets ici de Ésaïe 58, versets 12 à 14. Donc ce sont bien les adventistes du septième jour qui sont ici décrits, ceux qui répondent à l'appel du message du troisième ange. Mais maintenant, quoique ce soit bien la vérité, en principe, nous sommes aujourd'hui confrontés dans la réalité qui est sous nos yeux à une condition de choses qui requiert notre examen attentif. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à un spectacle, une réalité en face de nos propres yeux qui remet en question ce passage. Non pas que ce passage soit faux, mais qui remet en question notre application de ce passage. Ça ne remet pas en question l'application que l'esprit de prophétie en a faite. Cela remet en question l'application que nous sommes tentés d'en faire dans notre mentalité charnelle. Et pour développer cet élément, j'aimerais que nous nous tournions vers le passage de 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1. La première épître de Timothée, au chapitre 4 et au verset 1. Parce que nous avions lu dans Ésaïe que ceux qui viennent de Dieu, ceux qui sont de Dieu, les tiens, en parlant à Dieu, ils rebâtiront les antiques ruines. Ils relèveront cette loi qui a été foulée aux pieds par non seulement l'Église romaine, mais aussi toutes les églises protestantes qui ont suivi dans les traces de l'Église de Rome. Donc ça, c'était ce qui était prophétisé, c'était ce que l'esprit de prophétie nous confirme comme étant bien applicable au peuple du troisième ange. Mais la réalité qui est sous nos yeux, c'est celle-ci. 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc l'apôtre Paul nous dit clairement qu'à la fin des temps, et nous croyons en tant qu'adventistes du septième jour que nous vivons au temps de la fin, l'apôtre Paul nous dit que dans les derniers temps, au temps de la fin, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et donc nous posons la question, quand, nous l'avons vu, au temps de la fin, au dernier jour, mais nous pourrions très bien être tentés de dire que c'est un passage qui s'applique plus ou moins exclusivement aux églises protestantes qui ont refusé le message du premier ange et qui ont ainsi été appelé Babylone par le deuxième ange, sous la proclamation du deuxième ange. Mais que nous dit l'esprit de prophétie vis-à-vis de ce sujet-là, de ce détournement de la foi? J'aimerais pour cela lire une déclaration du témoignage de Jésus dans Évangéliser, le livre Évangéliser à la page 328, au paragraphe 2 et 3. Et ici, la servante du Seigneur nous dit ce qui suit. Il m'a été montré avec beaucoup de force que plusieurs nous quitteraient pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Seigneur désire que toute personne qui professe croire à la vérité en ait une connaissance intelligente. Et qu'est-ce qu'elle a dit au début? Elle a dit que le Seigneur lui a montré avec beaucoup de force que plusieurs nous quitteraient pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quitteraient qui? Plusieurs quitteraient le peuple de Dieu qui existait à son époque. Le peuple, l'Église de Dieu qui se tenait dans la brèche, comme elle le dit à d'autres endroits, et qui réparait la brèche de la loi de Dieu. Elle nous dit à d'autres endroits que, sous l'inspiration, que il n'y a qu'une seule église aujourd'hui qui se tient dans la brèche et qui répare cette brèche de la loi de Dieu. À son époque, elle pouvait dire qu'il n'y a qu'une seule église, que cette église n'est pas Babylone. C'est ce qu'elle disait. Et ici, elle disait que des personnes les quitteraient pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc vous voyez que le passage de 1 Timothée 4 vient ici par l'esprit de prophétie d'être appliqué à l'époque d'Ellen White. Donc nous savons avec certitude que ce passage de 1 Timothée 4 trouverait son application sous la proclamation du troisième ange. Elle continue. De faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Tout ce qui est susceptible d'être ébranlé le sera. Ainsi donc, n'est-il pas normal que chacun comprenne les raisons de notre foi? Au lieu qu'il y ait tant de sermons, on devrait étudier plus attentivement la parole de Dieu en examinant les Écritures, texte après texte, pour chercher les preuves solides qui étayent les doctrines fondamentales qui nous ont conduits là où nous sommes, sur la plateforme de la vérité éternelle. Elle continue en disant ceci. Je suis très attristé de voir avec quelle rapidité certains de ceux qui ont reçu la lumière et la vérité accepteront les tromperies de Satan et se laisseront séduire par une sainteté artificielle. Lorsque des hommes se détournent des bornes que le Seigneur a établies afin que nous puissions comprendre la place qui nous est attribuée dans la prophétie, ils avancent sans savoir où ils vont. Et donc c'est une déclaration très sérieuse, frères et sœurs. Je suis en train ici de lire en longueur des déclarations de l'esprit de prophétie que nous avons besoin de prendre à cœur, parce qu'elle disait que même à son époque, il y en avait qui avaient reçu la lumière et la vérité avec entrain et décision, mais qui maintenant acceptaient les tromperies de Satan et se laissaient séduire par une sainteté artificielle. Et c'est ici toute cette réalité de cette prédiction de l'apôtre Paul dans laquelle il disait que quelques-uns se détourneront de la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines qui ne sont pas les doctrines de la vérité. C'est ça le danger, c'est que nous nous laissions séduire par une sainteté artificielle. Une sainteté qui n'est pas le fruit du Saint-Esprit, mais qui soit le fruit de nos propres raisonnements, de notre propre activité mentale et moraliste par laquelle nous créons une bulle de religion qui est fondée non pas sur le fondement des apôtres et des prophètes avec Jésus-Christ pour la pierre angulaire, mais sur le fondement des doctrines de démons. Autrement dit, ce sont les doctrines que Satan, il vient nous présenter. Les tromperies de Satan, comme elle le dit ici. Et que dit-elle ? Lorsque des hommes se détournent des bornes que le Seigneur a établies afin que nous puissions comprendre la place qui nous est attribuée dans la prophétie, ils avancent sans savoir où ils vont. Et c'est ce que j'ai vu moi-même de mes propres yeux, c'est que lorsqu'une personne a été illuminé par la vérité, mais que elle est menée à croire qu'elle trouvera la délivrance et la satisfaction et la vérité à un endroit et dans des enseignements qui remettent en question les bornes que le Seigneur a établies, ce qu'il se passe, c'est qu'ils avancent sans savoir où ils vont. Nous voulons savoir où nous allons. Nous voulons savoir que là où nous marchons, c'est le sentier que le Seigneur a tracé par les messagers qu'il a choisis pour que nous y mettions nos propres pas afin de les suivre et de marcher dans la direction dans laquelle ils ont marché. Ellen White, elle avait vu en vision que, après avoir vu les adventistes du septième jour, ceux qui croient au message des trois anges, marcher sur un sentier étroit et abrupt qui montait de plus en plus et qui était de plus en plus étroit, à la fin, là où le sentier terminait, elle a vu James White, son mari, se balancer sur la corde à laquelle il avait été attaché tout le long et se lancer de l'autre côté dans la Canaan céleste. Et c'était une prévision qu'elle avait eue du moment où son mari trouverait la mort en 1881. Et donc eux, ils savaient où ils avançaient. Le Seigneur a établi des bornes. Et comme nous le lisions avant, qu'est-ce que c'était? Elle disait, on devrait étudier plus attentivement la parole de Dieu en examinant les écritures texte après texte, comme eux, ils l'ont fait, pour chercher quoi? Les preuves solides qui étayent les doctrines fondamentales qui nous ont conduits là où nous sommes sur la plateforme de la vérité éternelle. Non pas là où nous sommes, nous, en 2019, mais là où eux, ils étaient, et là où eux, ils en étaient arrivés sous les directives et la direction de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de prophétie. Ils en étaient arrivés à la plateforme de la vérité éternelle. Et ensuite, cela continue, cette pensée-là que nous devons suivre ces bornes que le Seigneur a établies et ne pas nous laisser détourner de ces bornes, détourner de cette foi qui a été établie par le Seigneur à travers ces instruments humains qu'il a lui-même choisis et dirigés. Pour continuer cela, j'aimerais lire dans le ministère évangélique à la page 301 au paragraphe 1. Ici, c'est encore plus sérieux ce qu'elle dit. J'aimerais que nous prêtions attentivement l'oreille pour écouter, non pas ce qu'un homme dit, mais ce que le Seigneur nous dit. Je lis. Que personne ne cherche à démolir les fondements de notre foi. Ceux qui ont été posés au commencement de notre œuvre par l'étude de la parole faite dans un esprit de prière et par la révélation divine. Et donc, est-ce que nous fions uniquement aux choses qu'ils ont trouver pendant les toutes premières années, peut-être les cinq premières années à partir de 1848 où le sabbat leur a été découvert? Est-ce que nous nous fions simplement aux premières croyances qu'ils avaient eues pendant ces cinq premières années jusqu'à 1850, 1855, 1860? Est-ce que c'est ça le message? Écoutez, elle dit, sur ces fondements, nous avons construit depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans. Cette déclaration que je suis en train de vous lire dans Ministère évangélique, à la page 301, a été écrite en 1904. En 1904, elle disait sur ses fondements, ses premiers fondements, qui étaient le commencement de l'œuvre, elle disait, nous avons construit depuis plus de 50 ans. Ça veut dire qu'en 1904, ils avaient encore été en train de construire sur ce fondement. Pas en train d'ajouter des lumières contradictoires, en train de construire sur ce fondement, en train de relever les antiques ruines de ce fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Elle continue. Des gens pensent peut-être qu'ils ont trouvé un nouveau chemin, qu'ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été posé. Mais c'est une grave erreur. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé. Elle vient de citer 1 Corinthiens 3:11. Elle continue. Dans le passé, plusieurs personnes ont essayé de construire une nouvelle foi et d'établir de nouveaux principes. Mais quelle a été la durée de ces tentatives? L'édifice s'est bientôt écroulé car il n'était pas fondé sur le roc. Et donc, quel est ce roc? C'est ce que nous avions lu juste avant, c'est la plateforme de la vérité éternelle. Et quelle est cette plateforme? C'est les fondements de notre foi qui ont été posés au commencement de notre œuvre et ce qui a été construit sur ces fondements pendant ces 50 années de formation. Elle disait, sur ces fondements, nous avons construit depuis plus de 50 ans. Elle disait cela en 1904. Vous n'en avez qu'à calculer. Cela vous ramène en 1850, approximativement. Plus de 50 ans. Donc il y a des gens qui croient qu'ils ont trouvé un nouveau chemin, qu'ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été posé. Mais c'est une grave erreur. Tournez-vous avec moi dans le passage de Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Donc aujourd'hui, nous voulons être fidèles à cet adventisme, à l'adventisme du septième jour. Nous voulons être fidèles au Seigneur. Et donc, il y a certains principes dans nos efforts pour fonder notre vie sur le roc que nous devrions prendre en compte et que le Seigneur place et présente à nos esprits aujourd'hui. Et il dit ici, Deutéronome 32, verset 7. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes anciens et ils te le diront. Interroge tes anciens et ils te le diront. Et maintenant, je vous pose la question, si nous interrogeons nos anciens, que nous diront-ils? Que nous diront-ils? Parce qu'on nous a dit que on ne devrait pas essayer de trouver un nouveau chemin, de poser un fondement plus solide. Et tout cela s'est développé dans le livre « Message choisi » volume 2 à la page 118 au paragraphe 1. Les fidèles ouvriers de Jésus-Christ doivent coopérer avec leurs frères qui ont fait une expérience dans l'œuvre dès la naissance du message du troisième ange. Ceux-ci ont avancé pas à pas, recevant lumière et vérité à mesure qu'ils avançaient, supportant épreuve après épreuve, dressant la croix qu'ils rencontraient sur leur route, s'efforçant de toujours mieux connaître le Seigneur, dont le lever se prépare comme celui de l'aurore. Avec d'autres de nos frères, vous devez accepter la vérité telle que Dieu l'a communiquée à ceux qui ont étudié les prophéties, étant conduits dans une expérience vraiment vivante, avançant point par point, soumis à toutes sortes d'épreuves, jusqu'à ce que la vérité soit devenue pour eux une réalité. Par leur voix et par leur plume, la vérité a envoyé ses brillants et chauds rayons dans toutes les parties du monde. Et cette vérité qui les a mis à l'épreuve, alors que des messagers du Seigneur la leur présentaient, est la vérité qui doit encore mettre à l'épreuve tous ceux à qui ce message est annoncé. Donc, qu'est-ce que nous lisons ici? Cette vérité qui les a mises à l'épreuve, c'est la vérité qui doit nous mettre à l'épreuve à qui ce message est annoncé. Donc la vérité qu'ils ont eue, qu'ils ont reçue, qu'ils ont découverte et qui a été confirmée, comme nous allons le voir par l'esprit de prophétie, c'est cette vérité par laquelle nous devons être éprouvés. Nous n'avons pas une vérité différente de la leur, de ceux qui ont été conduits par le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, vous devez accepter la vérité telle que Dieu l'a communiquée à ceux qui ont étudié les prophéties et qui ont été conduits dans cette expérience vivante et qui ont avancé point par point, c'est-à-dire un point doctrinal après un autre, et qui ont été soumis à toutes sortes d'épreuves jusqu'à ce que la vérité soit devenue pour eux une réalité. La vérité est devenue pour eux une réalité, et c'est pour cela que nous, en ces derniers jours où le danger est que nous nous détournions de la foi en nous attachant à des doctrines de démons, vivant à cette époque-là, notre besoin, c'est d'accepter la vérité telle qu'ils l'ont reçue de Dieu. Pas d'essayer de la découvrir moi-même de manière indépendante d'eux, de leur expérience qu'ils ont faite dans leur expérience des messages du premier, du deuxième et du troisième ange, mais de me soumettre à la réception de la vérité telle que Dieu leur a communiquer. Et ce message que je vous présente aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un message qui est indispensable parce que je me souviens moi-même. Lorsque je suis, pour la première fois, pendant mes premiers mois au sein de l'Église adventiste, lorsque je découvrais toutes ces vérités de la Bible, je me suis retrouvé plongé dans une expérience où j'étais embrouillé par les expositions de la prophétie que certaines personnes faisaient qui ne faisait pas du sens avec les simples explications que je trouvais dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Je me souviens encore d'un jour, alors que je me tenais dans l'assemblée et que j'écoutais cette présentation en plusieurs parties de l'Apocalypse, et j'avais mon carnet de notes à la main, et je prenais des notes, mais c'était des choses qui me dépassaient, je ne comprenais pas vraiment ce que j'écrivais. Mais il y a une chose que je n'oublierai jamais et qui m'a montré quel était vraiment le calibre de l'enseignement qui nous était donné. Et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé vraiment quel était cet enseignement qui m'était présenté. Une personne s'est levée dans l'assemblée et a dit « Oui, je remercie Dieu parce que j'ai toujours cru qu'il y avait un moment où il y aurait la fin du temps de grâce, mais vous venez d'expliquer que ce n'est pas comme ça. » Donc cette personne qui se présentait comme un enseignant de la Bible était en train de démolir les fondements de la foi. Il était en train de présenter une différente explication de la prophétie que celle qu'ont découverte les pionniers de l'Église adventiste sous la direction de Dieu et le soutien et les confirmations de l'esprit de prophétie. Donc nous sommes appelés à accepter la vérité telle que Dieu l'a communiquée à ses étudiants de la prophétie. Donc maintenant, frères et sœurs, je vous pose la question. À la lumière de toutes ces choses qu'on a contemplées, de ces citations où nous avons vu les déclarations distinctes de l'esprit de prophétie quant à notre appel, je vous pose la question. Qu'est-ce donc que l'adventisme primitif? C'est primordial pour nous de comprendre cela parce que aujourd'hui, en harmonie avec ce que nous avons lu dans les paroles d'Ellen White et de cette déclaration de 1 Timothée 4:1, en ces derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi en s'attachant à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est facile de s'attacher à des fausses doctrines lorsque nous n'avons pas reçu et réalisé les doctrines et la vérité telles que Dieu l'a présentée à ses serviteurs. La raison pour laquelle donc nous avons traversé ce message aujourd'hui et ces déclarations inspirées, c'est pour réaliser notre besoin de nous placer sur cette plateforme de la vérité éternelle. Sur ce fondement sur lequel les pionniers, avec l'esprit de prophétie, ont bâti pendant ces 50 années de formation. Souvenez-vous de cette date. Souvenez-vous de ce principe du fondement sur lequel ils ont bâti pendant 50 ans. Ils ont bâti, quelle était leur activité? Ils ont relevé les antiquruines, comme nous l'avions vu dans Ésaïe 58, verset 12. Ils ont relevé les antiquruines, ils ont rebâti ces fondations qui ont été mises en ruine par les bouleversements du Moyen-Âge et des fausses doctrines de l'Église romaine et de la superstition, etc. Ils ont relevé cela et maintenant l'esprit de prophétie nous appelle à accepter la vérité telle que Dieu leur a communiquée. À ne pas chercher à démolir les fondements de notre foi, disait-elle, ceux qui ont été posés au commencement de notre œuvre. Donc, nous ne devrions pas essayer de démolir ou nous laisser séduire dans la démolition de ces révélations qui ont été données au peuple de Dieu au commencement de l'œuvre et à travers ces 50 années de formation de la plateforme de la vérité éternelle. Et donc, il y a un point que j'aimerais soulever, c'est comment les fondements de notre foi ont-ils été posés? C'est ici marqué dans cette citation que nous lisions dans Ministère évangélique à la page 301 au paragraphe 1, où elle disait « Les fondements de notre foi ont été posés au commencement de l'œuvre par l'étude de la parole faite dans un esprit de prière et par la révélation divine. » Qu'est-ce que vous relevez ici dans cette citation? Quel est le message? Comment est-ce que nous pouvons nous rattacher à l'adventisme primitif? En restant fidèles aux fondements de notre foi qui ont été posés par l'étude de la parole et par la révélation divine. C'est-à-dire que les pionniers, comme c'est écrit à un autre endroit que je n'ai pas ici pris, donc je n'ai pas ici pris la citation, les pionniers se rassemblaient au tout début de l'œuvre et dans un esprit de prière, un esprit sérieux de ferveur où ils sondaient la parole de Dieu, ils se rassemblaient pour sonder la parole et découvrir la vérité pour que le Seigneur les guide, mais quand ils en arrivaient à un point où ils bloquaient, Ellen White était ravie en vision et elle recevait l'explication des passages sur lesquels ils butaient et qui leur faisaient obstacle dans leur exploration et leur recherche de la parole de Dieu. Et à travers la révélation divine, ils ont été guidés et ils ont posé les fondements de notre foi. Donc c'est très important pour nous de comprendre cet aspect-là parce que il ne s'agit pas simplement de prendre une déclaration par-ci, par-là des pionniers si celle-ci n'a pas été corroborée par l'esprit de prophétie. Parce que les pionniers eux-mêmes venaient d'un contexte des églises protestantes auxquelles ils appartenaient auparavant, et ils ont formé ensemble ce corps des croyants au message du troisième ange, mais tout au long de cette expérience, il a fallu que le Seigneur les aide à découvrir leurs erreurs. Ça a été le cas à travers le sabbat en 1848, lorsque le sabbat a été révélé et ils ont commencé à garder le sabbat. Ça a été le cas avec la réforme de la santé. Ça a été le cas avec d'autres aspects sur lesquels l'esprit de prophétie est venu corriger là où les hommes, à cause de leurs anciennes convictions, n'arrivaient pas à progresser. Donc, simplement, ne nous bornons pas simplement à relever certaines déclarations ici et là parce que les pionniers les ont crues, mais posons-nous la question, qu'est-ce que l'esprit de prophétie est venu dire à ce sujet? L'esprit de prophétie est-il venu corroborer, soutenir, appuyer, confirmer cela ou est-il venu corriger? Donc les fondements de notre foi ont été jalonnés tout le long de ces 50 années de formation par les illuminations de l'esprit de prophétie. Et je lis ici dans un passage de Message choisi, à la page 117, paragraphe 2, où elle dit « Nous sommes engagés dans un terrible conflit, et celui-ci s'aggravera à mesure que nous approcherons de la lutte finale. Notre adversaire ne sommeille pas. Sans cesse, il s'efforce d'influencer les hommes qui n'ont pas eu une expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu au cours des 50 dernières années. » Est-ce que vous avez eu une expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu au cours de ces 50 dernières années dont elle parlait ici? Ce n'est pas possible. Vous ne viviez pas à cette époque. Je ne vivais pas à cette époque. Je n'ai pas eu cette expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu par laquelle ces hommes ont trouvé et ont exploré la vérité d'une telle manière qu'elle est devenue pour eux une réalité. Pour eux, elle est devenue pour eux une réalité. Et donc, elle nous dit que Satan est sans cesse en train de s'efforcer d'influencer les hommes qui n'ont pas eu cette expérience personnelle. Parce que n'ayant pas eu cette expérience personnelle, nous ne sommes pas aussi capables que l'étaient de discerner l'importance des vérités qui leur ont été révélées. C'est pourquoi nous devons recevoir la vérité telle que Dieu leur a communiquée. Êtes-vous soumis? Rappelez-vous, dans l'univers, ton empire, comme le dit le cantique. Seigneur, subjugue tes ennemis. La création soupire, car tout doit être soumis. Sommes-nous soumis à l'Éternel, le Seigneur? C'est tout l'objet de notre méditation. Que toutes ces choses-là puissent nous conduire à Jésus, pour que l'on puisse réaliser notre besoin d'être constamment soumis à ses indications et à sa direction lorsqu'il nous dirige dans la vérité pour nous sauver. Et donc, avec tout ce que nous avons vu, si nous voulons donc maintenant défendre et maintenir l'adventisme primitif tel qu'il a été développé sous la direction de Dieu, les révélations de l'esprit de prophétie doivent toujours être le point culminant et décisif et déterminant dans notre étude. C'est à cela que nous devons toujours revenir. Parce que, comme nous l'avons vu, ils ont posé ces fondements par l'étude de la parole et par la révélation divine. C'est comme cela que ce fondement a été posé. Par l'étude de la parole dans un esprit de prière et par la révélation de l'esprit de prophétie. Parce que Dieu, il était en train de diriger son peuple et il dirigeait son peuple dans la vérité et nul homme n'est parfait. Et donc il nous a donné le don de l'esprit de prophétie pour nous guider bien clairement hors des erreurs et des séductions de l'ennemi, des esprits séducteurs et des doctrines de démons pour nous faire marcher droit là où nous serons conduits vers la délivrance finale. Et donc, pour exprimer cette importance pour nous de recevoir l'esprit de prophétie, j'aimerais lire le passage de 1 Corinthiens par lequel nous allons terminer. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 8, où il est écrit « Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà comment il nous affermira jusqu'à la fin. Par le témoignage de Christ qui a été confirmé en nous. Parce que toutes ces déclarations que je vous ai lues ici, c'était des déclarations du témoignage de Christ. Rappelez-vous des paroles d'Apocalypse chapitre 19, verset 10. Où on nous dit « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Le témoignage de Christ, le témoignage de Jésus-Christ, l'esprit de prophétie a été confirmé en nous si nous le recevons, de sorte qu'il ne nous manque aucun don à nous qui attendons le retour de Jésus-Christ. Et si nous saisissons de cela, comme nous sommes appelés à le faire, par ce témoignage de Jésus et notre dépendance totale à ses enseignements et ses directives, le Seigneur nous confirmera et nous affermira jusqu'à la fin pour que nous soyons fondés sur le roc, la vérité, et que nous soyons irrépréhensibles et inébranlables et prêts lorsque le Seigneur revient. Donc que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, en ce qu'il vous a donné le témoignage de Jésus. Puissent ces choses animer notre motivation à être fidèle à lui en toutes choses, pour que nous soyons finalement reçus et prêts au jour final. C'est ma prière. Que le Seigneur bénisse ces paroles à qui voudra bien les saisir, les épouser, et accepter la vérité telle que Dieu l'a communiquée à ses serviteurs. Amen.